Luc Fortin, bonjour.
Bonjour, Steve.
On revient avec tes étoiles de la semaine sur les trois paliers gouvernementaux. Avec lequel tu veux commencer?
Bon, on va commencer au niveau fédéral, mais moi, je veux te dire avant, Steve, maintenant, j'ai tellement hâte au vendredi matin là, de bien finir la semaine, d'avoir une chronique positive. Puis, on va te dire, les gens, ils aiment ça parce qu'ils m'en parlent beaucoup. C'est la chronique dont je me fais le plus parler. Puis, on me dit, on a hâte de savoir qui vous allez honorer, qui a fait des bons coups, parce qu'on entend tellement de mauvaises nouvelles. Ça fait du bien d'en avoir du positif.
En toute franchise, Luc, là, tu m'as fait réaliser quand tu as fait ça, j'ai dit, c'est vrai, on fait pas beaucoup ça en politique.
Il y a
pas beaucoup de gens, local ou national, là, qui font ça des espèces de coups de chapeau. C'est plus facile de parler des faux pas et du négatif.
Ben, parce que ça meuble davantage d'actualité aussi,
Dire. Ben oui. Mais en tout cas, c'est agréable, puis c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup ailleurs.
Puis ceux qui reçoivent les mentions d'honneur aussi l'apprécient, parce que j'en ai parlé.
Au fédéral, cette semaine, j'ai comme l'impression que ton étoile ne va pas à Justin Trudeau.
Oh non, évidemment. Et puis c'était difficile, parce que ça a occupé tellement de place, toute l'histoire de Saint-Hyacinthe-Lavalin, mais il y a des gens qui se démarquent, il faut le dire, et je veux te parler de la ministre des Sciences et du Sport, Kirsty Duncan. Parce que dans toute la question des agressions sexuelles, notamment dans le milieu du sport, on a tellement entendu des histoires d'horreur au cours des derniers mois, des dernières semaines. Il y avait encore Geneviève Simard, tout le monde en parle, qui parlait avec beaucoup d'émotion à quel point sa jeunesse avait été entachée par des événements malheureux. Il est le temps qu'on bouge dans ce dossier-là. Et la ministre du sport, Kirsty Duncan, a annoncé son intention de créer un code de conduite pour protéger les athlètes contre le harcèlement, contre les agressions, puis pas seulement les athlètes de haut niveau, mais également les enfants qui sont sur les terrains de jeu. Alors ça, je pense que c'est une excellente nouvelle parce qu'à cette heure du MeToo, on parle des dénonciations. Bien, c'est beau dénoncer, mais il faut que le gouvernement
ça
bouge.
Ça prend des actions,
oui. Puis là, on sent que le gouvernement fédéral, de son côté, veut bouger sur cette question-là. Alors, il faut saluer ça. Il est temps qu'on mette fin à ces comportements-là. Et puis le code qu'elle veut mettre en place va permettre justement de prévenir ces comportements-là, mais aussi de créer une espèce de régime de sanctions au niveau national. Alors ça, je pense que c'est une bonne idée. Donc, c'est une excellente idée justement pour protéger les athlètes, mais je me dis également, Steve, c'est pour l'avenir du sport. Parce que, tu sais, toi aussi, t'es père de famille, t'as des jeunes enfants, t'en as plein d'enfants qui veulent faire du sport, qui veulent aller dans les équipes sportives, puis là, tu sais, t'entends tellement parler de ça dans les médias, c'est sûr que ça te passe par la tête, puis tu te dis, est-ce que je mets à risque mon enfant?
Il y a deux choses. De un, ça prend une vigilance du parent, faut pas faire confiance aveuglément, mais en même temps, t'as envie d'avoir une certaine confiance dans l'organisation sportive dans laquelle ton jeune est inscrit, tu sais.
Exactement. Et puis là, c'est rassurant de voir qu'on prend ça au sérieux.
Oui, tout à fait.
Et puis, il faut qu'on continue d'encourager les parents à inscrire les enfants dans les équipes sportives parce que c'est bon pour le développement de l'enfant. C'est important de les faire bouger. On le voit dans les programmes de sport-études, l'impact que ça a sur la persévérance scolaire, sur la réussite scolaire. Mais il faut quand même rassurer les parents. Puis je pense que le geste posé par la ministre Duncan va dans ce sens-là.
Plus on aura de garde-fous, meilleures seront nos chances.
Absolument.
Sur le niveau provincial?
Oui, ça va à Pascal Bérubé, qui est le chef intérimaire du Parti québécois. J'ai trouvé hier qu'il a encore démontré une fois qu'il est un parlementaire redoutable. Parce que cette semaine, on a beaucoup parlé de la question des trop perçus d'Hydro-Québec, puis un petit peu le gouvernement caquiste qui a changé d'idée, parce que lorsqu'ils étaient dans l'opposition, puis moi je peux dire que je m'en souviens, ils disaient « libéraux remboursés ». Il y avait des pétitions, il y avait un site internet, ils posaient des questions en chambre.
Le trop perçu au complet, là, remettez ça aux gens.
Oui, au complet.
Au complet, c'est là la nuance.
Là la nuance, parce que c'est ce qu'on nous disait. Mais là, le gouvernement maintenant, la CAQ est au pouvoir, ils vont rembourser seulement la moitié. Alors, ils se font un petit peu talonner avec ça, puis hier en chambre, Pascal Bérubé, il s'est levé. Et puis, il a vraiment mis François Legault là, de manière très habile sur la défensive. Il a sorti justement les images du site Internet. Puis, comment ça se fait que vous disiez ça dans l'opposition? Maintenant que vous êtes au gouvernement, vous dites le contraire. Vous ne disiez pas la moitié. Vous disiez rembourser au complet. Alors, il l'a fait de manière tellement habile qu'après ça, c'est un peu son message qui était repris dans les médias. Alors, il y a son côté de redoutable parlementaire que je l'ai souligné ce matin, mais je dirais plus l'ensemble de l'œuvre. Parce que, écoute, je trouve que la force de son engagement politique mérite d'être soulignée. Il n'a pas hésité à devenir chef intérimaire de sa formation politique.
Que la formation s'en va un peu nulle part en ce moment.
Puis l'élection a été difficile pour nous autres, mais pour eux autres, je pense que c'est encore pire.
Ben oui.
Ils sont 10 députés, sont concentrés
encore
dans l'Est du Québec.
Encore dans l'opposition.
Oui, dans la deuxième opposition maintenant, même
devant.
Plus d'opposition officielle. Il y a eu un article dans la presse cette semaine qui révélait à quel point le PQ était dans les troubles financiers. Puis être chef intérimaire, quand tu sais qu'il va y avoir une course au leadership, c'est pas facile parce qu'il va y avoir des clans, tu dois être l'arbitre, tu dois être neutre à travers ça. Puis surtout au PQ, on sait que ça brasse souvent beaucoup. Alors, qui veulent s'engager là-dedans, ça mérite d'être souligné. Il est présent sur le terrain, présent dans les médias. Pas évident pour un gars qui est une matane, en passant, là, c'est d'aller dans les grands pôles médiatiques. Et puis, lui, il a dit, ben, je vais le prendre, le bâton du pèlerin, je vais continuer ce combat-là. Et puis, ça démontre, même si je ne partage pas ses idées, ses convictions, mais la force de ses convictions. Puis moi, je trouve que ça, en politique, c'est noble. Puis moi, je pense que Pascal Bérubé, il croit dans ses idées, puis ça fait en sorte qu'il est en politique pour les bonnes raisons. Puis c'est pourquoi, cette semaine, il y a ma mention d'honneur.
Et sur le fond, là, sur la question elle-même, là, je sais que c'est pas populaire de dire ça, là, puis Hydro-Québec doit faire attention dans ses demandes, dans ses demandes de hausse de tarifs. Il y a un certain respect à y avoir par rapport à la population, mais en toute franchise, là, 100% du montant devrait revenir au gouvernement. Non? Ben, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la poche du citoyen?
C'est sûr, parce que ça peut fluctuer aussi dans le temps. C'est difficile, c'est des questions qui sont difficiles à prévoir. Puis en même temps, les poches du gouvernement, c'est nos poches aussi.
Ben, c'est là où j'en viens.
Ben, cet argent-là sert à payer les services publics, mais le problème dans cet enjeu-là, il est politique, puis c'est le double discours qui est habilement dénoncé.
Oui, tout à fait.
Alors, puis ça engendre le cynisme, il faut le dire. Là. Quand tu es dans l'opposition, quand quand tu te retrouves au gouvernement, tu devrais dire la même affaire.
Tout à fait.
Au niveau local, je déroge un petit peu cette semaine.
Oh!
Oui. Ce ne sont pas des personnes élues, ce sont des personnalités locales, mais qui s'engagent dans un combat politique. Et c'est Claude Leblanc, qui est un bénévole hyper impliqué dans notre région, et le docteur Wayne Spitt. Et ces deux hommes-là s'impliquent beaucoup dans toute la question des défibrillateurs. Ils sensibilisent les gens, ils forment les gens aussi, puis ils font en sorte, moi, m'ont souvent interpellé lorsque j'étais député pour que je puisse mettre de l'argent discrétionnaire, qu'on paye des défibrillateurs pour les donner à des organismes communautaires. Et puis, on le voit à quel point ça fait une différence, à quel point ça peut sauver des vies. Ce temps de réaction-là que ça nous donne, on augmente beaucoup l'espérance de vie des gens.
Il n'y en a pas encore suffisamment, mais on les voit de plus en plus.
Non, puis ben, c'est là que ça sent bien. Parce que, tu vois, eux autres, ils ont mis en place, puis j'ai participé à leur souper de financement cette semaine, la Fondation du Bon Samaritain. Ils veulent continuer à ramasser des sous pour payer des défibrillateurs, mais leur combat politique, que je veux souligner, c'est leur volonté que les élus de l'Assemblée nationale, peu importe le parti, ils interpellent les 125 députés pour qu'il y ait un projet de loi, pour que ça devienne obligatoire, pour qu'il y ait des normes sur la présence des défibrillateurs dans les espaces publics, un peu comme les extincteurs, par exemple. Il y a des normes qui régissent ça, mais les défibrillateurs, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas obligatoire. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des défibrillateurs d'organismes. Même, tu vois, ici à la station, il y en a un.
Ah oui?
Il y en a un ici. Alors, ça, je pense... Parce que, tu sais, toi, je vais te donner un exemple. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Il y a des gens qui témoignaient cette semaine qui sont relativement jeunes. Toi, tu es un gars qui est en forme, tu es un gars également qui fait du sport, tu es jeune, mais tu sais, on le sait qu'il y a des sujets qui te touchent plus que d'autres. Puis je vais te donner un exemple, mettons. Tu sais, quelqu'un qui se présenterait devant toi en entrevue pour te dire que c'était une bonne idée d'avoir modulé les tarifs en garderie. Mais je pense que tu es candidat pour une attaque cardiaque, comprends-tu? Alors, qu'est-ce que ça ici? Ben, peut-être que ça va sauver ta vie.
Oui, non, mais et puis là-dessus, j'embarque avec toi, tu sais, à n'importe quel âge, puis même une personne en forme. Tu vas entendre des joggeurs des fois ou toutes sortes d'histoires. Il n'y a personne à l'abri de ça.
Ben écoute, justement, mercredi soir, il y avait des gens qui témoignaient. Et puis écoute, des gens en début quarantaine, là, c'est pas vieux. Là.
Non.
Tu ne sais pas dans quelles circonstances. Parce que oui, il y en a. Des fois, ça peut arriver dans le cas d'un effort physique. Tu entends souvent que des joueurs de hockey, d'un ligue de garage, qu'un attaque
mais
cardiaque.
Mais les facteurs de risque sont multiples. Comme tu parlais tantôt, l'émotivité.
Absolument. La condition physique.
Oui.
Et puis, ben justement, l'effort physique aussi. Alors, ça peut arriver à tout moment. Et puis, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, je me dis, puis oui, c'est sûr que... Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'ils avaient voulu déposer ce projet de loi-là à la fin de la dernière session parlementaire, enfin, sous l'ancien gouvernement. C'est arrivé tellement tard dans le calendrier qu'on n'a pas pu aller de l'avant. Mais là, on est en début de mandat. Il y a des coûts qui sont rattachés à ça, mais une vie, ça vaut plus que des dollars.
Exactement. Ben merci pour tes coups de chapeau de cette semaine, Luc. Au plaisir de se reparler la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Steve.